Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard, c'est long de rassembler tout le monde. Je vais laisser aux invités ici présents le soin de se présenter très rapidement pour commencer. On va commencer par David qui a l'air super enthousiaste à l'idée de le faire.
Vraiment le truc qu'il ne faut pas demander quoi. Bonjour, je m'appelle David, je suis avec mon papa que là-bas.
Mais non, mais juste que les gens sachent ce que tu fais dans la vie par rapport aux jeux vidéo et à la science-fiction.
D'accord, moi j'écris des livres depuis 15 ans. Je fais de la bande dessinée et depuis 10 ans, je suis narrative designer essentiellement sur des mondes en ligne, genre Dofus, Swagfu, des trucs comme ça. Voilà.
Merci David. Bonjour, je m'appelle Abrial D'Acosta, je travaille dans le jeu vidéo depuis presque 20 ans. J'ai l'occasion de travailler dernièrement avec Eric Chahi sur la réédition de Another World qu'on a réalisé pour le 15e anniversaire et maintenant on a réadapté sur iPhone, iPad pour le 20e anniversaire. Voilà. Et donc on va pouvoir parler de science-fiction et jeux vidéo, une grande thématique.
Bonjour, je m'appelle Laurent Jeunefort, je suis auteur de SF depuis une vingtaine d'années et j'ai travaillé sur From Dust d'Eric Chahi à ma gauche.
Ok, bon, donc, comme vous l'avez vu, je m'appelle Eric Chahi, donc je suis créateur de jeux vidéo, j'exerce ce métier depuis 1983. J'ai passé la parole à Jeanne.
Bah, moi, je suis à droite d'Eric Chahi. moi, je suis chef d'entreprise. Et ça fait 13 ans que je travaille dans le jeu vidéo et je suis scénariste aussi, un petit peu chef de projet, tout ça. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre.
Et le studio que tu diriges travaille entre autres sur des projets SF. Donc voilà, pour commencer sur cette thématique donc, du rapport entre la science-fiction et le jeu vidéo, je partirais bien de la question de l'histoire en fait de la science-fiction et du jeu vidéo, à savoir la naissance peut-être du jeu vidéo par la science-fiction et la naissance de la science-fiction tout de suite en même temps par le jeu vidéo. Si quelqu'un veut commencer.
dans mes souvenirs de lecture, je me rappelle, alors j'étais pas né à l'époque, faut pas exagérer, mais il y avait une nouvelle d'un auteur français des années 50 qui s'appelait Philippe Curval, qui avait écrit une nouvelle qui s'appelait C'est du billard, où il imagine une société qui est régie par les scores que produisent chaque citoyen en jouant tous les jours à une sorte de flipper élaboré, enfin de flipper spatial. Et en fonction du score qu'ils font, ça détermine leur rang dans la hiérarchie sociale. Donc pour moi, c'est le premier souvenir, enfin, chronologiquement, c'est le premier récit qui implique le jeu vidéo, même si ce n'est pas sur des écrans numériques comme maintenant, mais en tout cas, c'est voilà, l'implication d'un jeu vidéo dans une société entière et qui détermine même la forme de cette société. C'est le premier exemple et c'est une nouvelle qui date de 51-52, par là.
D'accord, donc la science-fiction, on est bien dans le thème de la genèse du jeu vidéo à travers la science-fiction.
Dès le départ, je crois, avant la naissance même du premier jeu vidéo officiel, ça faisait déjà partie de la thématique, de la même manière qu'on trouve un récit qui a été adapté qui a été produit par Roland Emmerich, qui s'appelait The 13th Floor, passé virtuel, qui décrit un emboîtement de monde virtuel de nature informatique. Alors que le roman datait de 1960 et des poussières, et c'est clair, bon, il n'y avait pas encore de monde virtuel, mais ça faisait déjà partie de la thématique. Donc la SF, elle traite des jeux vidéo, des mondes virtuels depuis avant que ça existe. Donc c'est clair que les interactions, elles sont forcément extrêmement étroites. Donc c'est logique que le jeu vidéo, à l'inverse, se soit inspiré de la SF et de la fantasy aussi d'ailleurs, mais de la SF en particulier, parce que je crois que le premier jeu vidéo Space Wars, le titre parle de lui-même.
Voilà, donc bien dès la genèse, le jeu vidéo a rendu l'appareil en générant de la science-fiction. Eric, tu avais l'air de vouloir intervenir.
Non, mais c'est ce que je voulais dire, ça a été dit, donc... mais effectivement, il y a une connexion très forte entre le jeu vidéo et la science-fiction.
le jeu vidéo, derrière le jeu vidéo, il y a de l'informatique. Donc ça fait partie vraiment de la technosphère et de la thématique SF. Ce qu'on a aujourd'hui dans le jeu vidéo, ça faisait partie de la prospection en SF il y a quelques dizaines d'années. Et voilà, donc je vais David, tu veux prendre le relais? Ça va? Ok. Bon. Mais c'est un sujet qui est... Enfin, la relation entre la SF et le jeu vidéo, c'est un sujet qui est évident et qui est intéressant, mais qui n'est pas si simple à traiter, parce qu'on peut tomber assez vite dans ce qui fait aujourd'hui la SF, la narration, etc. Et la vraie question, c'est c'est quoi la SF dans le jeu vidéo? Et on va essayer d'y répondre.
D'accord. Donc, ce qui nous amène effectivement à la différence que peut apporter le jeu vidéo par rapport aux autres médias vis-à-vis de la SF, puisque de par son imbrication, et donc effectivement cette définition de la SF dans le jeu vidéo et du jeu vidéo par la SF.
Déjà, dans le jeu vidéo, on interagit. On interagit avec un système. C'est quand on joue un jeu, derrière, il y a du code, il y a de la logique. Et forcément, c'est une vraie différence avec la SF traitée au travers du cinéma ou au travers de la littérature. Donc la SF littéraire, et je pense que Laurent en parlera beaucoup mieux que moi, elle va proposer des concepts, des idées, des expériences de pensée qui pourront être très, très profondes, mais le lecteur n'aura pas il restera passif. Alors que le jeu vidéo peut creuser un peu plus loin au travers de l'interaction. Je vais laisser la parole à d'autres.
Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Parce qu'en plus, honnêtement, on avait préparé un peu les choses avant, on en avait parlé ensemble. Et peut-être qu'on a dit trop de choses tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on a du mal à retrouver nos idées, non, David ?
J'ai oublié, moi.
Ouais, bah oui.
Non, je savais plus ce qu'on disait. On aurait dû l'écrire.
Mais c'est vrai que ce que disait Eric est très important, c'est que la différence, enfin, ce qu'apporte le jeu vidéo de manière générale par rapport à tous les autres médias, c'est le fait qu'on permet aux joueurs de manipuler, d'interagir avec le monde. Et éventuellement même de créer lui-même des choses qui ont été faites, par exemple dans sport, ça on en parlait tout à l'heure, où en fait on laisse le joueur créer des nouvelles espèces, créer un univers, et laisser après évoluer sa petite bestiole ou interagir avec les évolutions qu'elle peut avoir. C'est des choses qui sont en fait, on permet au joueur non seulement de vivre dans un monde SF, mais carrément de se créer sa propre SF. Parce que, évidemment, les gens pouvaient créer des monstres très très différents les uns des autres, et il y avait même des concours de bestioles les plus invraisemblables possibles. Et ça, c'est quelque chose que le jeu vidéo apporte et qu'aucun autre média ne peut apporter, à ma connaissance, en tout cas pour l'instant.
Alors, j'ai eu une idée, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui est en fait le rapport culturel qu'il y a entre les jeux vidéo et la SF. Moi, je suis né en 1974, j'ai été élevé avec les jeux vidéo, j'ai tout eu dans les mains, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me permettait de faire ça. J'ai eu toutes les consoles, j'étais un de ces gamins avec des blousons, avec des trucs dans le dos, avec des scorpions... Et des trucs, et j'étais sur des bandes d'arcade et je lisais des livres de SF et je lisais des comics de SF, et on était dans cette culture là et on avait ces graphismes extrêmement abstraits, ces lumières, ces néons, ce que j'appelle le néon liquide, quoi, le suc du jeu qui était là, dans lequel on se projetait complètement, nous hypnotisait.
Tron.
Bah oui, mais alors attends, j'arrive à Tron. parce que Tron, c'est moi, Tron, c'est ma vie, quoi. Et donc on était culturellement baigné. C'était être dans la SF dans les années 80, quand on est un môme, c'est le top, quoi. On est dans l'imaginaire, on vit dans l'imaginaire, mais l'imaginaire, il est là, il est acté. Quand on attend la sortie du Retour du Jedi en vrai, même si les gens pensent que Star Wars c'est pas vraiment la SF, pour moi je ne faisais pas la distinguo à l'époque, je m'en foutais, mais pour moi c'était un truc avec des vaisseaux, bon super. Je vivais dans le Retour du Jedi, donc c'était culturellement hyper important. Les deux se sont développés pour moi, en tout cas, et pour ma génération, je pense, de manière totalement symbiotique, quoi. C'est, les deux sont liés, c'est intime. Et je te citais Another World et je pense que tu vas en parler.
On est la même génération. Et à travers, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire qu'à travers les livres ou à travers le cinéma, le jeu vidéo, quelque part, c'était juste un début. Les aliens étaient hostiles. C'était un défouloir. On s'amusait. On laissait beaucoup de place à la créativité puisque le jeu vidéo n'était qu'une représentation 2D de ce qu'on voyait à l'écran, des aliens, un vaisseau, on shootait et basta. Et effectivement, notre culture, on est plus ancré, je dirais, dans la culture de l'image du cinéma, puisque c'était la seule qui nous crée un vrai univers à travers les premiers effets spéciaux. Et c'est vrai que Tron a été une claque dans la gueule, même avant, avec Star Wars.
Carrément.
C'est clair.
Attends deux secondes. Ouais, vas-y.
Non. Et puis Tron, c'est à ma connaissance le seul film qui est inspiré à un jeu vidéo, d'ailleurs.
Ah ouais, il est très bon, le jeu vidéo, même. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que quand on fait Tron aujourd'hui, ça n'a rien à dire sur le jeu vidéo, quoi. Le dernier Tron n'a absolument rien à dire sur le virtuel, rien. Les jeux qui sont sortis du premier Tron étaient, c'était visionnaire, il y avait une vision du jeu vidéo qui allait nourrir le jeu vidéo pendant 20 ans. Le Tron 2.0, il n'y a rien. Si tout ce que ça dit, c'est potentiellement remplaçons des acteurs par des images de synthèse. Ce sera plus simple. Donc finalement, ça dit quelque chose sur le cinéma, pas vraiment sur le jeu vidéo. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais dire, qui était le pont imaginaire qu'on faisait entre l'imagerie du jeu vidéo et les pixels et les vecteurs. Moi, je me souviens, quand je jouais sur Atari 2600, il n'y avait rien à l'écran, il y avait des cubes qui faisaient blip blip, quoi. Par contre, on avait des jaquettes qui étaient super belles, peintes par des artistes extraordinaires qui faisaient des planètes et des trucs. Et moi, j'étais là et je jouais avec l'image à côté, quoi. Comme si on essayait de reconstituer un pulse qui n'existait pas vraiment et on essayait de projeter la texture de l'image à l'intérieur de ces abstractions, quoi. Et ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement important pour moi, qui est constitutif même du rapport qu'on a en tant qu'auteur aux jeux vidéo aujourd'hui, quoi. Cette espèce de transfert qu'on fait de texture vers l'abstrait, en fait, d'habillage en fait. Après, on retrouve dans le mesh avec les textures en 3D dessus à poser. C'est tout ça, c'est très conceptualisé finalement, quoi.
Et alors peut-être que comme on en parlait tout à l'heure, si le jeu vidéo a évolué techniquement et qu'il y a moins d'efforts d'imagination à faire pour se projeter dans les univers qui sont dépeints, aujourd'hui, on a peut-être plus, du coup, on aborde plus la partie de la créativité, du rapport de la création de la science-fiction, ce dont on parlait tout à l'heure, donc l'imbrication dans la conception, le fait même que la conception du jeu soit en soi une part de science-fiction, parce qu'on utilise des machines, du code, etc. Et en même temps, l'autre aspect, c'était la partie peut-être héritage, c'est-à-dire l'héritage de la science-fiction non-jeu vidéo, qui pèse encore peut-être trop sur le jeu vidéo et qui fait qu'on n'est pas encore dans une libération totale de la SF et du jeu vidéo ensemble.
Alors, effectivement, y a une part de la SF dans le jeu vidéo qui est spectaculaire, qui est visuelle, qui n'est pas la meilleure SF. C'est une SF de divertissement. Et c'est ce qu'on a beaucoup dans le jeu vidéo. En fait, si on regarde superficiellement le jeu vidéo, on se dit la SF de jeu vidéo, c'est ça. Mais qu'est-ce que la SF en fait ? Enfin, la SF profonde, celle qui fait réfléchir.
Ça va être. J'en ai strictement aucune idée en fait. Non, mais en fait, la SF, là aussi, on est dans les points communs entre le jeu vidéo et la SF. C'est le « et si », c'est l'hypothèse de départ qui est commun en fait à tout jeu vidéo et à tout récit de SF. C'est « et si demain les fusées allaient jusqu'aux planètes, et si, etc. » En fait, on pose une hypothèse et on la développe de façon rationnelle. Et le jeu vidéo, c'est ça, quoi. Et quand je lisais gamin Asimov, les robots, c'est extrêmement ludique. Je trouve que ça offre, évidemment, pas une expérience de jeu au sens vidéoludique, mais il y a cette même jouissance d'imaginer comment développer, surmonter les obstacles logiques, etc. C'est des sortes de jeux logiques dans lesquels on peut se projeter et voilà quoi. Il y a aussi quand même l'aspect narratif. Un jeu vidéo, ça reste essentiellement narratif et quand même. Et
tout le monde ne sera pas d'accord.
Oui, oui, bien sûr. Mais
troll.
Mais attention, narrative ne veut pas dire histoire. Ça veut dire qu'il y a progression, on va dire.
Mais alors, on pourrait justement faire un point sur la narration dans le jeu vidéo, juste brièvement, parce que c'est important, parce qu'on va discuter de ça. La narration dans le jeu vidéo ne veut pas forcément dire le scénario. Aujourd'hui, il y a une espèce de tarte à la crème qui dit si je suis scénariste de jeu vidéo, alors globalement, j'écris les mots qu'il y a dans le jeu vidéo, mais finalement. Mais c'est pas ça la narration du jeu vidéo. La narration du jeu vidéo, c'est plus le contexte du jeu vidéo qui peut faire naître potentiellement telle ou telle histoire. Alors, si c'est une histoire en ligne, ça sera une histoire collective. Si c'est une histoire scriptée par la suite, on l'écrira. Mais le narrative design, c'est plus le contexte, c'est plus l'architecture, c'est plus ce qu'on ne voit pas, en fait, qui doit apparaître, qui n'apparaît que dans le développement, et qui se révèle à travers une histoire, mais qui n'est pas fondamentalement l'histoire elle-même. Et ça, c'est important de le préciser, quoi, parce que la plupart des jeux vidéo sont des systèmes avant tout, quoi.
C'est là aussi où on approche un point commun entre SF et science-fiction, où il faut avoir une conceptualisation d'univers, une conceptualisation de système qui va vivre par lui-même et qui va...
Ou de philosophie.
Voilà, ou de philosophie, mais qui va interagir, en l'occurrence, dans le cadre du jeu vidéo, avec l'utilisateur.
Ouais. Tout à fait. Et on pourrait se demander, mais finalement, est-ce qu'un jeu comme SimEarth, c'est une simulation de planètes où des formes de vie peuvent se développer, c'est un vieux jeu de Wheelwright, est-ce que ça, c'est pas plus de la SF qu'un shoot'em up, Mass Effect, etc. Et pourquoi ça l'est plus? Parce que on fait de la prospection, on explore des trajectoires, comme disait Laurent. Et si il y avait que des formes de vie cellulaires, et si il y avait pas de végétation, et si il y avait si c'était une planète avec que de l'eau. Donc on est en pleine science-fiction, et c'est là où c'est fascinant, c'est que c'est le joueur qui en jouant sur différents paramètres va explorer diverses trajectoires. Il va être acteur. Donc il y a un autre jeu que je voudrais citer, c'est un jeu qui s'appelle Akron. Alors c'est un jeu de stratégie temps réel où on peut remonter le temps. Donc ce jeu n'est pas très bon, mais il a le mérite de proposer une expérience de pensée qui est il s'agit de sprinter, mais il s'agit de remonter le temps. Donc on peut avoir des formes de paradoxes. Donc comment est-ce qu'ils ont pu résoudre le paradoxe temporel et des divers paradoxes temporels? Donc en fait, ils ont une vague d'énergie qui remonte le temps, ce qui fait qu'on ne peut pas tout construire d'un coup.
Pour ceux qui ne connaissent pas Akron, c'est un jeu de stratégie temps réel, donc un jeu de guerre où on déplace des unités pour aller attaquer ses adversaires, et où en fait le jeu est basé sur la technologie de voyage temporel, et donc pour empêcher une unité de venir détruire un de vos éléments, une des solutions est d'aller la détruire avant qu'elle ne soit construite, par exemple.
Ouais. Je voulais juste rebondir aussi sur l'aspect technique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde un peu l'histoire du jeu vidéo, on a toujours une grosse contrainte qui est la technologie, c'est-à-dire qu'on aurait voulu depuis longtemps que pour des gens qui viennent du jeu de société ou du jeu de rôle, avoir une interactivité un peu plus poussée, une sociabilité justement grâce aux jeux vidéo, mais on a toujours eu cette contrainte technique de pouvoir épanouir réellement un univers, un scénario. Pour moi, je distingue quand même, on va dire, deux grandes phases. Il y a eu la phase 2D jusqu'en les années 80, même jusqu'à Elite, qui était un jeu de prospection spatiale, qui a un peu révolutionné son temps à l'époque, où on avait déjà, on va dire, les prémices d'un univers qui se bâtissait. Avant cette période-là, c'était des aliens, comme ils disaient, hostiles qu'on allait shooter. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des technologies, on est passé à des machines plus performantes, et on a commencé à avoir des auteurs qui se sont appropriés le média du jeu vidéo pour commencer à réellement à créer des concepts, notamment, on peut parler d'Another World ensuite, d'Eric, parce que là, on a un ami qui est alien, par exemple, et ça s'était pas vu avant dans un jeu vidéo. Donc, si je fais le parallèle par rapport à la science-fiction en général, avec des univers d'anticipation, etc., et par rapport à la contrainte du jeu vidéo... Maintenant, avec la nouvelle phase du online depuis 20 ans, on va arriver à des vrais univers complètement démentiels.
Je suis pas d'accord du tout, excuse-moi, mais avec le fait que ce soit la technologie qui fasse évoluer la, notre. Enfin,
non, je dis qu'on avait cette contrainte, on aurait voulu avoir plus de choses dans les années 80, mais on ne pouvait pas le faire. D'accord. Parce que...
Finalement, Elite, voilà. Un Elite, on n'est pas capable de le refaire aujourd'hui. Parce que justement, certaines abstractions visuelles et technologiques permettaient d'avoir un nombre infini de planètes. Ce qu'aujourd'hui, on ne se permettra plus parce qu'on voudra que les planètes elles soient toutes super belles. On a, dans une certaine mesure, l'abstraction totale du vectoriel à l'époque et de certaines méthodes faisait qu'on pouvait au contraire laisser des mondes presque infinis. Aujourd'hui, je pense que... Je ne dis pas du tout que la technologie nous empêche de faire des bonnes choses, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié. Pour moi, c'est indépendant. Et ça vient plus de la volonté de certaines personnes. Ce qui est vrai, par contre, c'est que le jeu vidéo a gagné en maturité. Et comme il a gagné en maturité, il attire des gens qui sont peut-être un petit peu moins nerds et un petit peu moins autistes que ceux qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, on a effectivement des auteurs de SF, on a des romanciers, on a des... Non, mais moi, c'est pas grave, hein, moi, je le suis. Hein, c'était pas une critique. Ouais, au contraire. Je suis pleine d'admiration. Mais effectivement, on a des gens aujourd'hui qui viennent du cinéma, etc., qui ne venaient pas à l'époque vers le jeu vidéo parce que c'était considéré un peu comme un truc de débile mentaux. Ça, on a heureusement un peu évolué. Mais franchement, pour moi, ça n'a rien à voir avec la technologie, ça a plus à voir avec la maturité du média. Et à la limite, j'ai même tendance à dire que comme ça coûte cher aujourd'hui de faire du beau, on a des contraintes qui sont imposées par les éditeurs ou par les distributeurs qui font que oui, on va aller avec de la SF mainstream, celle qu'on trouve dans tous les films grand public aujourd'hui. On va plus facilement avoir du Avatar qu'un truc complètement barré façon Charles Stross, par exemple.
Donc, ouais.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais entre Elite de 1984 où c'était... Des vaisseaux filaires avec très peu de détails et le contexte actuel. Je vais parler du livre. Et en fait, ce qui est finalement, quand on crée une œuvre, on s'en fout qu'il y ait des beaux visuels quelque part. Ce qu'on veut, c'est toucher le joueur et qu'il en retire quelque chose qu'il ait dans sa tête un monde. Le monde, soit un monde tel qu'on a voulu lui communiquer, soit un monde construit à partir des bribes qu'on lui aura données. Et ce qu'a fait David Braben dans Elite, c'est ça. Alors il a peut-être fait inconsciemment à l'époque, parce que les contraintes techniques étaient telles, mais c'était, il a donné juste des petites esquisses et le joueur pouvait se construire tout son imaginaire au travers de ça. Et dans un roman... c'est ce qu'on a. Tu le disais tout à l'heure, David, tu parlais de vide et de plein. C'est vrai que dans un roman, on a du vide et on va le remplir un peu pour que le joueur puisse construire son imaginaire.
C'est pour ça que
imaginaire.
J'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure pour dire que même si l'interaction c'est spécifique au jeu vidéo, et c'est vrai que le jeu vidéo peut mettre. Pour moi, je trouve que c'est un peu réducteur de placer le lecteur dans une position de la lecture n'est pas interactive. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la tarte à la crème, mais j'ai envie d'aller là-dedans parce que c'est important. Et la littérature est interactive. C'est la beauté de la littérature, c'est ça. C'est l'entre-deux, c'est l'entre-ligne. C'est tout comme la bande dessinée. L'intérêt dans la bande dessinée, c'est pas la case elle-même. C'est l'espace entre les cases. C'est finalement la manière dont les choses se séquencent et la manière dont elles s'enchaînent. Les ellipses. Pour moi, l'ellipse, c'est la beauté absolue. En la narration, l'ellipse, quoi. Si tu veux, l'interaction. Moi, je pense que tout ça procède de la pensée. C'est vraiment la noétique, pour moi, c'est le cœur. On tourne autour de ça depuis tout à l'heure. Et on est tous d'accord là-dessus, mais on a du mal à le dire parce qu'on ne sait pas le dire. C'est que finalement, on place l'humain tout le temps dans ce contact qu'on a avec un monde qu'on recrée, qu'il soit à partir de codes ou qu'il soit à partir de notes fondamentales, de mots qui vont permettre de délimiter une réalité. Mais ce principe-là, c'est un principe d'interactivité. L'interactivité dont tu parles, c'est l'interactivité de l'agent qui écoute, qui processe et qui restitue une information. Mais finalement, est-ce que ton texte ne peut pas être envisagé comme étant justement un agent ? Et c'est en ça que c'est beau, le passage entre la SF littéraire et le jeu vidéo, c'est que finalement, est-ce que le jeu vidéo, ce n'est pas une application concrète d'un processus noétique qui est à l'œuvre en littérature ? Et finalement... aujourd'hui, on vit dans de la SF, mais on était déjà là-dedans conceptuellement depuis toujours, en fait, quoi. Tu vois ?
J'ai rien compris.
Mais si, t'as compris. Arrête de dire
n'importe quoi. Partir de noétique.
Arrête de dire n'importe quoi. Bon, alors, vulgarise-le.
C'est ta pensée, je vais pas la dénaturer. Je repense surtout au je pense qu'il faut pas non plus croire que parce que on donne l'apparence de choix à moi, ce qui m'importe dans le jeu vidéo, c'est le point de vue aussi. Et c'est là où je pense que les créateurs de jeux vidéo de SF rejoignent les auteurs littéraires de SF, c'est qu'ils proposent un point de vue. Quand moi j'ai joué à Another World, ça m'a fait rêver, pas d'un point de vue technique parce que j'y connaissais rien, mais parce que ça me racontait une histoire d'un vrai créateur. J'avais une vision de créateur. Et on a tendance un peu à se noyer dans la technique des fois en disant oui, on va offrir aux joueurs 24 000 possibilités de créer une histoire. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la bonne histoire, pas la possibilité d'en faire 64 000.
Et finalement, la littérature nous donne le moyen de...
Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais je veux dire, s'il n'y a aucune bonne histoire dans les 64 000, je m'en fous, j'y jouerai pas, quoi.
Je vais perdre mon idée.
Et encore, quand je dis histoire, c'est pas histoire. C'est le point de vue personnel de quelqu'un. J'avais un créateur derrière et je le sentais. Quelque chose de neutre ou de faussement neutre.
En littérature, l'interactivité, elle est toute simple. C'est que c'est pas les choses en elles-mêmes, c'est la manière de faire les choses. À partir du moment où je te dis meumeu, tu vois une vache, mais tu vois la vache que tu veux. Finalement, l'important de savoir si c'est une vache ou une chèvre, on s'en fout. L'important, c'est que c'est une vache, mais la vache, c'est la tienne. Et tu peux l'avoir tant que tu veux. Tu peux dire je prends la bouteille d'eau. Dans un jeu vidéo, c'est comme. Alors, je prends la bouteille d'eau ou je prends le livre. Dans une histoire, je vais te dire j'ai besoin que tu prennes la bouteille d'eau, mais par contre, moi, je vais être capable de faire en invisible. Tous les mouvements, prends la bouteille d'eau. Et finalement, j'ai le choix d'envisager quel mouvement. Est-ce que je me lève pour prendre la bouteille d'eau? Je ne suis pas obligé de le décrire, ça. Donc finalement, l'interactivité existe aussi, mais ce n'est pas la même.
C'est pas la même interactivité. Disons que c'est une interactivité qui est intérieure.
Oui, plus.
L'interactivité, et je suis d'accord, il y a une interactivité, il y a une interaction avec l'esprit du lecteur, son imaginaire. Et dans le jeu vidéo, l'interaction, elle est extérieure au joueur. C'est vraiment ce qui caractérise le médium du jeu vidéo. Et c'est compatible avec ce que tu dis.
Bien sûr,
complètement. Et ça se combine formidablement bien d'ailleurs, de pouvoir justement au travers d'interactions qui sont extérieures aux joueurs, que ces interactions, elles suscitent une couche imaginaire.
Ouais.
Voilà.
Elle peut même être partagée, en fait. C'est ça la
différence. C'est nouveau,
par contre. C'est que quand on arrive au multijoueur, on commence à partager son interaction avec des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire avec le roman. Parce qu'effectivement, je peux m'imaginer que je vais prendre la bouteille d'eau, je peux t'imaginer prendre la bouteille d'eau, mais il y a des chances pour que je t'imagine pas comme toi, tu t'imagines. Alors que là, l'intérêt du jeu, quand on est plusieurs à jouer ensemble, c'est qu'on partage nos interactions.
Prenons la bouteille d'eau ensemble.
Voilà, exactement. Mmh. Et à la limite, ça se rapproche peut-être plus du jeu de rôle sur table ou du GN, où on partage quelque part une expérience ensemble plutôt que du roman. À ce moment-là, hein, je parle vraiment spécifiquement.
Okay. Je rebondis sur ce que tu disais. Par rapport à ce que tu cherchais, c'était pas vivre 12 000 histoires, mais une histoire. Et en fait, après, tu t'es repris. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir la vision d'un créateur, enfin, ou en tout cas quelque chose de précis qui va être communiqué. Et effectivement, la notion d'histoire, elle n'est pas forcément très importante. C'est surtout... qu'est-ce qu'on communique aux joueurs et on peut, au travers de plusieurs histoires, communiquer des choses qu'on ne pourrait pas faire avec une histoire, parce que ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, dans le jeu vidéo, on réitère, on joue et on recommence, et ça permet d'explorer, on va dire, le champ des possibles, dans le système de jeu, évidemment, c'est pas totalement ouvert. Ça peut l'être plus ou moins, ça peut l'être beaucoup plus si le jeu est très systémique, mais c'est, en tout cas c'est très intéressant parce que ça permet de comparer plusieurs réalités. Et ça c'est vraiment spécifique au jeu vidéo.
Il y a un terme pour ça, c'est que j'aimais bien, et c'est juste pour finir sur ce que vous disiez, c'était le terme dans, en jeu vidéo de mush. Les mush, c'était alors les muds et les mush, c'était ces espèces de jeux textuels en ligne, c'était vraiment des proto-mondes en ligne, où il y avait plein de joueurs qui jouaient, on leur donnait un contexte, et puis ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dedans, quoi. Et mush, ça veut dire multi-user shared hallucination, une hallucination partagée par plusieurs utilisateurs. Et ça, moi, je trouve que c'est génial, parce que en fait, c'est de la drogue, quoi. C'est le jeu vidéo. Non, mais c'est super important. Et même en SF, quand la SF, les jeux vidéo ont été contextualisés, les matrices. Bon, là, on va un petit peu trop loin, mais c'était juste pour préciser ça. C'était que le partage, que la virtualité et que la mise en ligne des jeux proposent, ça, par contre, c'est quelque chose que on pourra jamais faire ailleurs. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et là, on est dans une hallucination totale de tout le monde. Et c'est super. On vit avec les. On vit ailleurs, quoi.
C'est marrant parce
là, c'est
que
c'est SF, quoi. Non.
Tu utilises quasiment la définition du cyberspace définie par Gibson, ouais. Qui est une hallucination consensuelle.
Gibson, mais tout à fait. Mais Gibson, quand moi, c'est un.
Qui ne jouait pas aux jeux vidéo.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il écrivait. Gibson, comment il a écrit Neuromancien ? Il était sur une machine à écrire analogique. Et encore, je me demande. Il était bourré de. Je sais pas quoi. Il prenait. Je voudrais bien prendre ce qu'il prenait. Et il avait peut-être des potes qui travaillaient, qui étaient codeurs et qui travaillaient sur des vecteurs, qui travaillaient sur des choses complètement abstraites. Et il mettait des choses incroyables. Il voyait ça. Il voyait les profondeurs de données. Il voyait les canyons de data. Il voyait les chiffres. Qui prenait vie et tout, et le mec il voyait ça, il communiquait ça, quoi. Et est-ce que finalement c'est pas, enfin, je sais pas, est-ce que l'énergie de la SF elle est pas là, quoi, quelque part, d'une certaine manière, en tout cas, non, je sais pas, intéressant. Et oui, donc le jeu vidéo c'est de la SF, le virtuel c'est de la SF en action, quoi. On y est, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on peut peut-être explorer rapidement également des exemples concrets de jeux vidéo qui, selon vous, explore de manière unique par rapport aux autres médias ou apporte une vision unique que les autres médias n'auraient pas pu apporter et que le jeu vidéo a permis d'apporter.
En SF pur ?
Oui,
si on reste idéalement. Sujet, Eve Online, même si on est dans les tropes du Space Op, c'est un monde vivant. Eve Online, c'est un monde avec des empires, avec des vaisseaux au design qui ne sont pas du post-Cameron, qui justement empruntent pas au cinéma, mais qui empruntent spécifiquement à la beauté visuelle, esthétique du jeu vidéo, avec ces espèces de traînées de lumière, ces tableaux Excel qui clignotent, le rétroéclairage dans la nuit à 4h du matin, le crunch, le grind, les guilds, tout ça. Enfin, tout ça, c'est incroyable, tout ça. Ça donne. Moi, j'ai jamais vu ça en cinéma, j'ai jamais vu ça en littérature. Ça n'existe pas. C'est vraiment spécifique. À ce jeu, quoi. Après, c'est un jeu hardcore, ça, je dis pas, quoi. Où est Vincent ? Il est pas là ? Il aurait pu en parler mieux que moi, mais bon, ouais, ça, par contre, ouais, moi, donnez-moi Eve Online ailleurs, je vois pas, quoi.
Ouais, enfin, un jeu assez ancien de Chris Crawford, c'est Balance of Power.
Énorme.
Voilà, où c'est un jeu de géopolitique. Comment maintenir la paix dans le monde, et là bon, on explore différentes possibilités, et c'est une thématique SF quelque part.
Ouais, totalement, SF politique, prospection politique, ouais, carrément. Mais il y en a plein, en fait, des jeux comme ça, quoi. Moi, je me souviens de Mind Forever Voyaging, qui est un texte, une aventure textuelle où, en fait, il n'y avait pas de personnage, on était qu'un esprit, une âme, en fait. Et on passait, et le gameplay, c'était comment est-ce qu'on passait d'une chose à une autre, en fait. Et c'est incroyable, moi, ça m'a boulé. C'est vraiment des visions comme ça qu'on a, qui seraient très difficiles à mettre en narration, parce qu'en narration, il faudrait passer d'un corps à l'autre, il faudrait passer d'une voix à l'autre, au bout d'un moment, ça ne voudrait plus rien dire, et on dirait que c'est du nouveau roman, quoi.
Comme dans Nomad,
ouais.
Soul.
Nomad Soul. Nomad Soul, c'était vraiment génial, Nomad Soul. David Bowie, quand moi je me souviens, bon, j'avais été emmené par ce jeu par David Bowie, parce que David Bowie disait, je trouve une nouvelle existence dans Nomad Soul, quoi. J'existe d'une nouvelle manière. Et c'était très beau, quoi. Et d'ailleurs, il avait fait son album Cyberpunk Outside au même moment, quoi. Donc la culture, qui était un album Cyberpunk Outside, hein. Donc la culture se cristallisait autour de ce projet-là. C'était très très fort, quoi. C'était en plus un commentaire énorme sur la biopolis et sur les états fascistes en général, quoi. Et ça fait toujours plaisir de taper sur les fachos. J'en ai profité, hein.
Après, moi, on en a déjà cité quelques-uns, mais de manière générale, tous les jeux sandbox. On permet aux joueurs de créer ces créatures, de créer ces univers, de créer ces planètes. Bon, après, voilà, Eric à côté de moi, il n'osait peut-être pas parler de son propre projet, mais From Dust, et puis avant, certains God Games de Peter Molyneux, Et puis effectivement, sport et ainsi de suite, tous ces jeux-là, finalement, sont pour moi aussi de la SF, puisque, et une SF qu'on ne peut voir qu'à travers le jeu vidéo, puisque finalement, on laisse vraiment l'utilisateur créer complètement sa propre SF à lui, s'approprier complètement les outils. En fait, on lui permet, c'est comme si on lui donnait une machine à écrire, on lui disait d'écrire son propre roman. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, ouais, et qui nous est, je crois, assez spécifique.
Parce que finalement, si on réfléchit bien, si on regarde les gros succès de science-fiction dans les jeux vidéo, genre StarCraft ou Mass Effect, qui sont des jeux tout à fait décents en termes de mécanique, hein. En termes de mécanique, moi, j'ai joué à StarCraft pendant des années, quoi. Bon, finalement, c'est assez pauvre en termes d'univers. Parce que Warcraft, c'est Warhammer 40 000. Finalement, Mass Effect, c'est Star Wars. Il y a pas vraiment de différence. Il y a pas de proposition, quoi.
Half-Life.
Half-Life, ouais, peut-être.
Il y a une
Half-Life.
Direction artistique.
Ouais, mais Half-Life, c'est il y a une direction artistique, mais c'est pompé sur Stephen King,
mais
sur
voilà,
The Mist,
quand même,
Stephen King,
quand même, quoi. Plutôt sur du FPS.
Ouais.
Du coup, peut-être Portal aussi, qui pour le coup raconte, enfin, avec
Portal, c'est très bien,
une interaction très particulière et très simple, réussi à créer à la fois. Moi, je trouvais que Portal était un bon exemple de jeu réussi dans le sens où la narration est très sympa et vraiment très intéressante et on la suit facilement. On la suit d'autant plus facilement qu'à aucun moment elle n'induit de gameplay qui soit parasite au gameplay initial, qui est hyper simple et qui est hyper addictif et qui est celui de la résolution d'énigmes à base d'un clic gauche à clic droit, quoi.
Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Portal, parce que peut-être qu'il faut quand même expliquer, Portal, ça a été quand même une grosse révélation dans ma vie. C'est globalement, si je mets un trou bleu là et un trou rouge là, si je rentre dans le trou bleu là, je vais sortir par le trou rouge. D'accord ? Donc bon, c'est du wormhole de base.
C'est un téléporteur.
Voilà, c'est un téléporteur. Sauf que si je mets juste mon pied là-dedans, bah, je verrai mon pied là. De la même manière que si je passe dedans et que je suis déjà en point de vue dans l'autre portail, je me verrai en train de disparaître par là.
Et on garde la vitesse acquise quand on tombe. C'est intéressant aussi.
On garde la vitesse acquise, voire même on l'amplifie. C'est-à-dire que si on tombe, si je mets un trou là-haut, si je mets un trou là, si je saute dans le trou là, en tombant de là-haut, je vais m'accélérer, je vais tomber dans le trou, je vais retomber et je vais m'accélérer de plus en plus. Et si à un moment donné je me dévie, ben, je peux aller jusque là-bas, si je veux, en saut. Et donc c'est complètement fou quand on joue à ça. C'est incroyable.
C'est toi qui avais parlé de Half-Life. Je suis assez d'accord, moi c'est un des jeux de SF qui m'a marqué, pas parce que c'était très intéressant en soi au niveau imagerie, mais c'est je le mets presque en parallèle avec un Another World, c'est-à-dire que j'ai un rapport un peu charnel au jeu, il faut que je me sente bien dedans, que je garde des images en fait des jeux et par exemple dans Half-Life, je me rappelle de scènes, par exemple, la façon dont, quand on arrive dans Xen, qui est l'espèce d'univers parallèle, j'ai vraiment ressenti, surtout quand on joue à 2h du matin, qu'on est déjà à moitié parti, on est dans un climat étrange et ça a installé un climat étrange que je n'ai retrouvé que dans certains bouquins de SF, justement. Donc on peut aussi chercher dans certains jeux d'immersion un climat, quoi. Et j'avais ressenti un climat très étrange dans Unreal aussi, passer un climat presque sud-américain, un climat un peu tropical, mais sur une planète étrangère que j'avais pas ressenti depuis longtemps dans un jeu ou dans un bouquin ou dans un truc comme ça. Donc c'est aussi c'est aussi de l'image, quoi. Mais comme la SF, c'est aussi de l'image. On conceptualise beaucoup. C'est des hypothèses, mais c'est aussi des images. Et on pense en images. Donc l'image est quand même très importante, quoi.
Alors du coup, est-ce que c'est pas aussi une des forces du jeu vidéo que de pouvoir bénéficier de tous les autres médias finalement? Puisque le jeu vidéo, pour créer de la SF dans le jeu vidéo, on bénéficie à la fois de l'image, donc de l'illustration qui est très forte dans l'univers de la SF, même en dehors du jeu vidéo. On bénéficie quand même du support de l'écrit, puisqu'on peut, ouais. On a du texte. On bénéficie aussi de tout ce qui est son, de tout ce qui est musique, de tout ce qui est... voilà. Est-ce que c'est pas aussi un atout particulier du jeu vidéo pour écrire de la SF, pour générer de la SF ?
Dans le jeu vidéo, c'est peut-être un piège aussi, cette facilité... Tu pourras peut-être rebondir par rapport à ma. Ça peut être un piège, parce que c'est facile de faire. Enfin, c'est facile. C'est conceptuellement facile de reprendre, d'appliquer sur un moteur connu, de plaquer des nouvelles maps, des nouvelles, une musique un peu différente, et puis hop, je te lâche le truc. Mais le joueur s'en aperçoit vite et c'est frustrant. Donc je me demande si c'est pas n'y a pas un piège de facilité derrière ça, ouais, de pouvoir justement utiliser un fond d'images et de sons gigantesques, quoi, qui est celle de l'histoire humaine et de l'histoire de la culture SF, qui est une histoire qui a plus d'un siècle aujourd'hui.
En plus, on est tous, je pense, en tout cas, pour la plupart des développeurs, nourris par tous ces imaginaires-là. On a tous lu beaucoup de ces bouquins-là, vu toutes ces images, et finalement, ça fait effectivement partie d'une sorte de culture commune. Mais le risque, c'est de s'y limiter et c'est de s'y enfermer, en fait. Et le problème, c'est que c'est très, très dur d'avoir à la fois tout ça en tête et de se dire à la fois qu'il faut dépasser ça et créer quelque chose de neuf et de pas juste se contenter de remâcher avec un peu de gameplay par-dessus des choses qu'on a déjà vues et entendues. D'autant que, pour des raisons financières, entre autres, on a tendance à nous rediriger vers toujours un peu les mêmes univers. Donc la fantasy déjà usée et surusée, et puis évidemment l'ASF à la Star Wars, le côté space op. Et finalement, vouloir aller au-delà de ça, c'est compliqué, surtout quand on a tout ce passif-là.
Oui, c'est vraiment le truc de se dire que le jeu vidéo est un médium en tant que tel, il n'a pas besoin de regarder à côté pour exister tel qu'il est. C'est pour ça que moi je ne joue plus à un jeu avant 92, quoi. 94, parce que à cette époque-là, on faisait, comme tu disais, on faisait avec une technologie qui était celle-là, mais en même temps, la créativité qui était poussée. Plus on était bloqué, finalement, plus on était créatif. Les gens ils disent oh, dans les années 80, on avait plein d'idées de gameplay, super marrant, on en a plus. Mais c'est pas qu'on en a plus, c'est qu'à l'époque, on était obligé d'être ultra rusé comme des fenecs, quoi, pour faire des trucs, quoi. Et tout était codé en assembleur, c'était un truc de dingue. Moi, je me souviendrai toujours de cette image de Chris Crawford en train de coder justement Panzer General. Avec son casque comme ça sur son ordinateur. Et génial cette photo, c'est exactement ça. Et la beauté du jeu vidéo, elle est là, et on a envie de défendre ça aussi. C'est que c'est bien des trucs qui font blip blip et qui font. Et il y en a marre de cette dictature du cinéma. Enfin, moi je veux dire, Avatar, c'est le niveau zéro, quoi. De tout. Le jeu vidéo Avatar, c'est pire que tout. Je veux dire, c'est vraiment c'est une nullité absolue, quoi. Si au-delà de mon imagination, telle qu'ils nous l'ont vendu, il y a ça. Moi, je me tire une balle tout de suite, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi on continue à faire ce métier, quoi.
Donc, la conclusion, c'est que le jeu vidéo doit inventer sa propre SF.
Il doit se décomplexer, surtout. Pour qu'il soit de la SF, vraiment, il faut qu'il se décomplexe. Il faut qu'il arrête. Il arrête de croire qu'il est le parent pauvre du cinéma, quoi. Ça suffit. C'est pas vrai.
Il faut peut-être que les gens arrêtent de le croire, en fait.
Ouais, après, il y a tout un contexte socio-culturel qui fait qu'il n'y a que les mômes qui s'intéressent, que c'est que pour les débiles, ou que finalement, comme c'est que des tanks. Et bon, finalement, c'est pas très intéressant et que ça amène pas grand-chose. Mais bon, moi, je suis désolé, je vais encore parler d'Eric. Mais moi, quand je jouais à Overworld quand j'étais gamin et que je disais que c'était un chef-d'œuvre, que c'était une œuvre d'art, les gens, encore aujourd'hui, quand je dis que c'est une œuvre d'art, les gens regardent en disant mais tu dis n'importe quoi. Même si j'ai pas de discours spécifique sur l'art en général, mais pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, c'est quelque chose qui a changé mon regard sur un certain nombre de choses, quoi. Et voilà. Mais les gens ne veulent pas me prendre au sérieux. Mais je suis désolé, mais c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Parce que les gens disent ouais, c'est rien, c'est juste des lignes.
Je crois qu'il faut attendre encore un peu, enfin, ouais, que ça grandisse. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, nous, de bosser. Enfin, on a encore une grammaire, je crois, à créer. Et vraiment, peut-être même justement à travers un retour à l'abstraction, d'une certaine manière. Aller presque dans ce qu'il y a de plus pur et abstrait dans l'idée de l'interaction et de ce que nous, on peut apporter en termes de choses spécifiques. Des gens comme Eric travaillent beaucoup là-dessus. Et on a encore plein de choses à découvrir. On n'a pas fait le tour, quoi. Et voilà, il faut bosser maintenant.
Ouais, c'est clair. Et je rebondis sur ce que tu disais, puisque il y avait ce fantasme du cinéma, et que j'ai vécu moi-même, dont je me suis d'ailleurs libéré aussi. Et maintenant, j'ai une approche qui est beaucoup plus systémique. Et je pense que c'est, le jeu vidéo pour qu'il éclose vraiment dans toute sa démesure doit s'exprimer d'abord au travers d'un système, au travers d'une simulation, au travers d'un système qui va donner des briques pour construire des histoires. Tout ça, c'est essentiel. Si on se contente de balancer des belles séquences avec peu de choix pour le joueur, même si ça peut exprimer des idées profondes au niveau de la thématique, on va passer à côté de quelque chose. Donc, mais là, c'est en train de bouger, ça évolue lentement, mais sûrement. Et c'est là-dedans que la SF va le mieux s'exprimer dans le jeu vidéo. d'une façon très différente de la littérature.
Et du cinéma.
Et du cinéma.
Amen.
Et d'ailleurs, demain, ah, j'en profite parce que demain, on met ça. Alors, c'est sur l'hypernature. Alors bon, c'est David qui va le mieux en parler. Mais attention, pas trop long.
Si vous venez demain, c'est la deuxième partie de ça. On va encore un peu plus loin et là, on devient fou. Donc, si vous voulez voir des fous parler demain, ce sera ici demain. Je sais pas à quelle heure, midi. Il y aura Jeanne aussi qui rejoindra.
Dans une heure, il y a donc. Je vais parler de Another World, donc du le processus créatif du début jusqu'à la fin du jeu. Un jeu qui a été créé il y a 20 ans, donc c'est une autre époque. J'aborderai tous les aspects de la création. S'il y en a que ça intéresse, vous êtes les bienvenus.
Voilà, et je ne sais pas s'il y a un micro potentiellement dans la salle, mais si jamais quelques personnes ont des questions.
D'accord. Alors en fait, je disais que vous avez dit qu'une des conclusions possibles, ça serait qu'en fait les jeux vidéo devraient inventer leur propre histoire, enfin leur propre SF. Mais en fait, il y a un jeu que j'ai joué, bon, peu importe du jeu, mais il se basait sur une théorie qui s'appelle la Schwarzwelt. C'est qu'en fait, l'humanité continuait à être aussi mal, le monde deviendrait un monde de ruines, enfin que ça serait complètement. On serait tous des démons, enfin je sais plus, ça a été inventé en 1936. Enfin, peu importe, mais donc en fait, il y a d'autres jeux normalement qui devraient être basés comme ça sur des faits de SF. Là, dans ce jeu, ça prend une théorie qui était un peu laissée parce que apparemment personne connaissait, et donc ça a été établi, ça a été étendu dans un vrai jeu vidéo comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qu'on fait la même chose?
C'est-à-dire partir de postulats de SF classiques et les explorer?
Oui, par exemple.
Non, quelqu'un?
Civilisation, quoi. Si les nazis gagnent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Si les nazis développent l'art nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est intéressant parce qu'on est dans le terme de l'Uchronie. En ce moment, il y a une game jam là-haut. Il y a des designers qui bossent et qui bossent exactement sur cette question-là, en fait. Et ils font du boulot super. Leur boulot sera, on pourra le voir le dimanche après-midi. Ils font un jeu en 48 heures. C'est un truc génial. Et je pense qu'il y a plein de jeux. Alors après, il faut regarder.
Il y a beaucoup de wargames, en fait, qui partent. Toujours sous des principes d'Uchronie.
Un Red Alert, par exemple.
Où effectivement, on dit qu'est-ce serait l'issue de la bataille si, à tel moment, on modifie, même si c'est une donnée infime. Quasiment tous les wargames sont basés sur ce type de décision-là. Tous les wargames plus ou moins réalistes.
Mais c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'Uchronie, c'est la base même du jeu vidéo. En fait, le principe même de faire de jouer à un jeu, c'est de l'Uchronie. C'est-à-dire qu'on va. Et si je fais ça, il va se passer quoi? Ah ben, je me plante, hop, je reviens en arrière. Et si je fais ça, il se passe quoi? Ah tiens, j'ai gagné.
Il y a une autre question là devant.
Oui, moi je suis de la même génération que monsieur, et c'est vrai que en fait ce que je retiens moi de cette impression un peu folle. Il y a un jeu que vous avez, enfin, sans doute auquel vous avez joué, mais qui proposait en fait une expérience. C'est-à-dire que c'était de la SF pour le joueur. Et il me revient, c'est L'Arche du Capitaine Blood.
Ah ben oui, on l'a cité tout à l'heure.
C'est-à-dire que
on en a parlé tout à l'heure, mais
oui, parce que là on était clairement mis à la place de l'inconnu complet. On était devant une interface qu'on ne comprenait pas, etc., avec un langage qu'on ne comprenait pas. Et puis, à nous d'essayer de découvrir. Donc là, c'est effectivement une vraie expérience. Et moi, je me souviens que quand je me suis lancé là-dedans, alors, au bout de 10 minutes, j'ai lâché l'affaire en me disant « c'est pas possible ». Et puis après, je m'y suis remis. Donc ça demandait un peu d'effort, quoi. Et à ce moment-là, là, j'ai eu véritablement l'impression d'être dans un univers que je ne comprenais pas. Mais là, c'était de la SF, pour moi, pur et dur, quoi. Enfin... En plus, j'en étais acteur. Et c'est vrai que des expériences comme ça aujourd'hui, dans le jeu vidéo, alors, bon, je suis peut-être un peu négatif, mais j'en ai pas vu. Des choses qui permettaient comme ça une immersion, mais qui était une immersion pas volontaire. C'est une immersion où on tâtonne, on est dans l'inconnu. Quoi.
Alors,
Portal est un peu dans ce cas-là.
Portal est un peu dans ce cas-là. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi la faute au fait qu'aujourd'hui, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs par la main, de peur qu'ils fuient, de peur qu'ils fassent comme vous, etc., qu'au bout d'un minute, 10 minutes, ils se barrent, et qu'on lui fait des tutoriels qui durent finalement peut-être même un jeu entier, quoi. et où on va lui expliquer ce qu'il peut faire, ce qu'il faut faire, etc. Et que finalement, la curiosité, le désir de faire partie de quelque chose dont on a envie de comprendre, c'est-à-dire de la vie même, finalement, aujourd'hui, on l'a plus, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est que à l'époque, voilà, donc les créateurs comme Didier Bouchon ou Philippe Ulrich, hein, bah voilà, ils créaient leur jeu et il n'y avait pas d'éditorial pour dire faites ci, faites ça. Il y avait les règles de game design étaient, il n'y en avait pas véritablement. Aujourd'hui. Dans des grosses boîtes, c'est super formaté. Hein. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que le joueur comprenne au premier clic souris. Enfin, c'est extrême. Hein? Bah, j'ai cité personne.
Non, mais c'est vrai, on en a parlé un peu ce midi aussi. On a perdu le côté gameplay itératif et le fait qu'on expérimentait la mort à travers le game over. C'est vraiment quelque chose qu'on a complètement perdu et qui a, je pense, eu un impact relativement négatif. Pour l'instant, on va sans doute le dépasser au bout d'un moment, mais pour le moment, c'est encore quelque chose qui est assez difficile à vivre pour nous en termes de création, parce que tout doit être facilité, aidé, accompagné, comme le disait David. Et du coup, on a un peu du mal à plonger le joueur dans un univers inconnu, et en plus à lui faire peur, à lui faire craindre quelque chose, puisque de toute façon, il ne peut même plus mourir. Donc il est dans une espèce de bulle où tout est bien. Et c'est dur de faire de la SF qui secoue un peu le joueur quand il peut rien lui arriver en fait. Donc et ça hélas, voilà, il va falloir un peu dépasser le côté tout est facile.
Ouais, donc au final le jeu vidéo est peut-être à cause de l'économie victime de la profusion. À l'époque on avait faim, on jouait à tous les jeux et on insistait même s'ils étaient extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, y en a tellement que les gens veulent les vendre. Et pour ça, ils font des jeux qui plairont à tout le monde et qui rebuteront le moins possible.
Il y a un autre truc aussi, c'est que les jeux à l'époque, pour ne pas faire le nostalgie vieux con, parce que, voilà. Mais on est un peu vieux con, un peu. C'est fait déjà. Et c'est qu'il fallait mériter un jeu auquel on jouait. Moi, je me souviens, ça prenait des plombes avant de jouer au jeu, quoi. Les jeunes ne connaissent pas ça. Aujourd'hui, vous mettez un CD, ça plug tout de suite, tac, le pad, et puis on est parti. Avant, pour brancher un pad, c'est pas ça. Hein. Un jeu, il se chargeait. Il fallait trois quarts d'heure pour charger un jeu.
Non, parfois, il fallait coder en basique. Hein.
Des fois, il fallait coder en basique pour lancer le jeu. Quoi. Moi, je veux dire, j'ai fait l'expérience, j'ai rebooté un Amiga à 600 là, il y a deux jours pour l'espace rétro game qu'on a là. J'étais désemparé. Pourtant, je l'ai eu, hein, Amiga. Non. Je me suis dit, comment on fait déjà? Alors, slash, non. C'est fou. Donc, il fallait mériter. On avait envie de s'engager. Ça partait d'un désir personnel, en fait. On n'était pas là. On commence en consommateur passif en disant, allez-y, envoyez-moi des images, envoyez-moi des expériences. J'en veux. Non, c'était nous. On y allait, en fait. Et c'est très différent comme principe, tac-tac, on avait envie de pénétrer plutôt que d'être pénétré. Et
pourtant, c'est exactement ça le jeu vidéo, en fait. C'est que théoriquement, on devrait être actif.
Ouais.
En tout cas, on va essayer de... Bon, on va arrêter là, de toute façon, parce qu'il est l'heure, et on va espérer que le jeu vidéo réussisse à dépasser son... Enfin, à maturer encore et à se libérer définitivement pour proposer des expériences de SF encore plus inédites. Merci à tous de nous avoir écoutés.